bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Les portes du club s'ouvrent à nouveau comme chaque mercredi 18h sur VL. Je suis très heureux de vous retrouver, très heureux de retrouver l'équipe au complet. Dans un instant, je vous présente tous les invités qui vont se succéder dans cette émission. Mais on commence tout de suite et je vous décris le sommaire de cette émission avec la fine équipa. C'est parti pour le sommaire de cette émission. On va avoir dans un instant évidemment tous nos invités qui vont se succéder dans ce plateau. Revenue tout droit du Vietnam, elle va nous raconter un petit peu son périple. Lola Moreau sera avec nous. Et pour accueillir nos grosses huiles, nos invités, oh là là, Arnaud Magnier nous parlera de végétaline. On l'appelle le magnifique dans le métier. Et moi, je serai avec vous pour la séquence du téléspectateur. Salut les copains.
Salut.
Salut.
Ça fait plaisir de vous retrouver.
Revenu de
Cuba et du Vietnam.
Ouais.
C'était la classe de pouvoir vous lancer depuis vos destinations pour le travail et pour les vacances. Nos invités, je vous les présente dans la deuxième partie de l'émission. C'est une jeune humoriste qui est sur scène actuellement avec un one woman show qui va nous rejoindre. Chris Baranzelli sera avec nous. On l'accueille dans quelques minutes. Mais dans la première partie de cette émission, c'est une fidèle de cette émission. On est toujours ravis de l'accueillir. Elle revient pour un nouvel album à venir. Mais oui, il arrive, il est bien là, au mois de mars, il va sortir, et voilà, et tout le monde là, on l'a entre les mains. Marie Dauphin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue.
Merci pour l'invitation.
On est très heureux que tu sois avec nous pour parler de cet album, et donc pour parler de cet album, rien de mieux qu'un directeur artistique pour t'accompagner, Gérard Cuc, qui est avec nous. Merci, merci d'être avec nous, je suis ravi de vous rencontrer enfin, parce qu'évidemment, on vous connaît quand on suit un petit peu le périple de Marie. Et vous êtes aussi réalisateur, scénariste. Et notamment, vous avez à votre actif un très très beau clip qui cartonne, on m'a dit, et qui se prime dans le monde entier, extrait de ce nouvel album. Donc tout va bien en ce moment finalement avec la sortie de cet album.
Tout va super bien, ouais, vraiment, on a mis le temps qu'il fallait. Ça fait
6 ans.
6 ans.
C'est vrai, hein. On a démarré avant le
juste
Covid.
Juste avant le Covid. Et voilà. C'est une belle gestation et oui, Gérard est présent parce que si Gérard n'avait pas été là, et ben l'album ne serait pas là.
Et voilà, et moi je l'ai écouté évidemment pour préparer l'émission quand on s'était vu la dernière fois. Et c'est vrai que c'est une très très belle découverte, c'est une très belle surprise. Mais j'ai des titres que j'aime beaucoup et que je me passe en boucle. J'avoue que j'ai une grande tendresse pour Sunset Boulevard, que j'aime beaucoup. Il faut dire en plus ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a deux versions de l'album. Il y a une version CD et une version USB avec une séance de Feldenkrais.
Pour la clé USB.
Pour la clé USB.
Bah oui, c'est une séance Feldenkrais.
Je l'ai casé. Oh, ouais.
J'ai réussi à le dire.
Ça dure une petite heure, une séance Feldenkrais. Bon, on peut faire des pastilles très courtes. Et d'ailleurs, pour l'opus numéro 2 de l'album, il va y avoir aussi dans la clé USB des séances Feldenkrais, mais d'un quart d'heure. Donc, il y aura 4 pastilles Feldenkrais d'un quart d'heure sur les yeux, pour soulager les cervicales.
Et tout ça avec un casque sur les oreilles, à écouter Marie Dauphin qui chante dans cet album. On va y revenir dans un instant. On va se replonger évidemment dans cet univers. Et alors, je dois dire que je ne suis pas mécontent. Arnaud nous a trouvé des pépites, des petites surprises pour Marie. Et on va y revenir dans un instant après avoir parlé de cet album. Mais auparavant, je voudrais vous parler d'un CD qui vient de sortir il y a quelques semaines. La bande originale d'un dessin animé qui était pour l'instant jamais sorti dans le commerce. Les Américains ont fait fort, ils ont sorti directement un double CD. Oh, ça va vous replonger dans vos souvenirs des années 90. Un vieux monsieur radin qui cache son argent dans un coffre-fort, ça va forcément vous parler. C'était Jean-Claude Corbel qui signait le générique original de ce dessin animé. Voici un petit extrait et je vous présente le CD juste après.
C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. En suivant Pipi, Riri et Loulou, nous entrerons.
La bande à Picsou, voilà, c'est un dessin animé original, et voilà, ils ont sorti l'intégralité de la bande originale de ce dessin animé, DuckTales. Il y a une nouvelle version qui vient de sortir, évidemment, avec David Tennant qui joue le rôle de Picsou, mais là, voilà, c'est la version des années 90, c'est disponible, évidemment, pour les 40 ans du dessin animé, signé Ron Jones, donc, c'est vraiment une petite pépite, il y a toutes les musiques, les grands thèmes de ce dessin animé. Donc si vous aimez vraiment, il est disponible sur un site en France qui s'appelle Music Box. Et profitez-en parce qu'en général, c'est tiré à peu d'exemplaires. Une fois qu'il n'y en a plus, Il n'y en a plus. Il y en a plus. Et c'est introuvable.
Sauf chez Arnaud.
Sauf chez Arnaud, éventuellement.
Alors, j'en ai
Et voilà, c'est vraiment une petite pépite. On va évidemment, dans un instant, vous dévoiler les pépites qu'il a trouvées sur Marie. On va parler de Avenir, ce très, très bel album. Avec des sonorités, je te le disais quand on s'était parlé, moi qui me rappelais un peu aussi par moments l'ambiance de Isabelle Adjani, de son pull marine ou des choses comme ça, au fond de la piscine. Oui. C'est important quand on se lance dans ce genre d'album et qu'en plus on le voit autour de cette table, effectivement, un univers pour lequel les gens se connaissent, d'attirer les gens aussi dans ton univers à toi et te connaître aussi un peu pour ce que tu fais et ce que tu aimes et ce que tu es.
Bah, ça fait maintenant depuis 2005 qu'on monte les spectacles avec Gérard. Ah. On adore travailler ensemble. Donc ça, c'est suffisamment rare pour être souligné aussi. Ouais. Parce qu'une complicité mari et femme, c'est savoureux, c'est agréable, ça existe. Et on se complète véritablement bien. Que Gérard est là pour me cadrer. Il a sa folie aussi. Parce qu'en studio, avec l'arrangeur Nicolas Lassu, ils ont formé une équipe formidable tous les deux. Je te laisse parler en vitesse de ton rôle de directeur artistique. Oui.
En fait, quand Marie, tous ces titres, qui ont été testés la plupart sur scène, et à un moment donné, on se dit bon, on va en faire un album. Et avec le directeur artistique, l'idée qu'on avait et la direction générale, c'était de ce que je déteste le plus, c'est, par exemple, c'est d'avoir un album où le premier titre égale le dernier titre. C'est-à-dire avec le même son. La même ambiance, on a l'impression d'écouter 15 fois le même morceau. Et là, on s'est dit, on va faire quelque chose de riche avec des univers qui vont changer, qui vont basculer. Quelquefois, c'est du rock, quelquefois, on est un truc un petit peu jazzy. C'est pour voyager, un vrai voyage, que ce soit dans la musique. Et puis après, les paroles, bon, je suis scénariste, mais je ne suis pas auteur. Mais Marie les écrit très, très bien. Et donc, ce mariage des paroles magnifiques avec une musique qui est très disparate, ça a fait Bleu, cet album-là, plus le numéro 2, puisque, en fait, on a 20 titres en tout. C'est pour ça que ça a été long aussi, 20 titres, avec un orchestre philharmonique.
On va être obligé de faire revenir, cher Gérard. Pour la partie 2, cher Gérard. Donc, il va falloir trouver d'autres pépites, mon cher.
Donc là, c'est l'opus numéro 1, Bleu. Voilà. Et l'opus numéro 2 sera dans les orangers et les rouges.
J'ai vu parce que j'avais vu passer une couverture qui était rose. Et je me suis dit, alors, c'est pas la bonne version qu'on a, ça doit être l'ancienne.
Et ensuite, il y aura l'album avec le 1 et le 2, où il y aura les deux couleurs mélangées. Donc le bleu.
Le coffret sera avec le quadricolore.
Voilà, en 2028.
Et félicitations à l'équipe de God Save the Queen pour la réalisation de la pochette.
Elle est très belle.
Très beau.
Elle est très, très belle.
J'ai demandé à ce que ça soit ludique.
Si vous regardez bien sur cette pochette, il y a Groucho Marx.
Il y a plein de
Il y a Marilyn Monroe.
Il y a plein d'éléments cachés.
Il y a une sirène, etc., etc. Il y a des éléments cachés.
Parce que Marie ne fait pas que le Feldenkrais, elle fait aussi le test oculaire pour essayer de retrouver les dessins. Et en fait, quand vous voyez Marie, vous repartez, vous êtes requinqué de partout.
Regardez,
ça pète sur l'écran.
Groucho Marx, on le voit. Ouais. Allez,
faut pas dire.
Faut le trouver.
Et on me voit au fond de la piscine, le clip. Il y a une image de moi du clip.
J'aime pas ma mère aussi. Oh là, pardon.
Et peut-être ça fait même test, tu sais, de rechasse pour les tâches. Si vous voyez pas la bonne personnalité, c'est que vous avez un problème.
Tu me vois pas là au fond de la piscine en train de dire j'aime pas ma mère. Tu sais que ce titre, j'ai failli ne pas le mettre. Ça aurait été une grave erreur et je remercie Gérard qui m'a dit mais s'il y a bien un titre qu'il faut mettre, c'est celui-ci parce que ça va parler à beaucoup de gens. La relation avec nos mères, elle est pas forcément simple, même quand on est fusionnel, c'est toujours un peu compliqué. Et j'ai eu raison de l'écouter parce que déjà on a fait un super clip et on en est à 56 premiers prix à l'international pour ce clip. Et on a été vu à Chicago, on a été vu à Los Angeles, on a été à New York, on a été vu en Inde, au Portugal, en Italie, en Chine, au Mexique, partout. Et des retours des gens qui avaient la traduction de la chanson qui disaient mais waouh, bon déjà comment elle a fait pour rester aussi longtemps sous l'eau et puis de chanter J'aime pas ma mère. C'est un peu osé quand même.
En fait, juste rapidement, le clip, on voit Marie qui chante sous l'eau pendant 3 minutes 50. Elle est sous l'eau.
T'as pas vu encore le clip?
Mais je me dis, moi je pensais pas que c'était.
Ah, c'était pour de vrai, c'est pas une idée.
Et donc on la voit, elle chante.
Quelle respiration, cette Marie,
réussir à ouvrir la bouche sans
prendre la tasse.
C'est compliqué. Être synchrone avec la musique, c'est déjà compliqué. Et le faire avec grâce, c'est encore plus alors, compliqué.
Le problème, Marie, avec un tel succès à l'international, c'est qu'il va falloir que tu t'entraînes à dire Bibi Fogg dans toutes les langues du monde. Ça va être un calvaire. Ah,
tu sais que j'ai déjà appris à chanter Lady Oscar. J'ai déjà appris à chanter Lady Oscar en japonais. Donc,
tout peut arriver. Mais c'est vrai que ce que disait Gérard tout à l'heure est assez... assez vrai, parce qu'il n'y a pas une couleur différente à ces chansons dans cet album-là.
Identique, tu veux dire.
Identique, ouais. Oui, bien sûr. Ouais. On passe d'un univers, effectivement, au début, qui est un peu presque sombre par moment. Mmh. Et après, plus ça va, plus le disque se colore. Ouais, ouais. Et moi, je vous ai dit, j'ai trouvé... moi, je pense qu'un titre comme Sunset va faire du bien à plein de gens.
Ah, Madame aussi.
Mais Madame, ah, c'est le
deux.
Mais non. Sunset...
Vous spoilez, monsieur.
Sunset, c'est d'autant plus émouvant qu'il y a des fans qui sont venus en studio, je les ai fait chanter. Et ça, c'était vraiment une volonté, puisque Dame de Cœur Productions nous a aidés sur la production de cet album, soutient tous nos projets artistiques. Et la mission de Dame de Cœur Productions, c'est d'ouvrir les portes des studios, des tournages, et de faire participer le public à la création artistique pour que les gens puissent se rendre compte de c'est quoi. Enfin, il n'y a que le côté paillettes, mais il y a beaucoup de travail derrière. Et là, d'un coup, ils s'en sont rendus compte. En studio, c'était pas forcément évident, mais le résultat est là et ils ont super bien travaillé.
Et j'ai vu sur la page officielle YouTube de Marie Dauphin qu'il y a un petit bout qui a été présenté de ce titre Sunset. On peut peut-être en voir un petit extrait pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Surtout que vous écoutez, parce que moi, ça reste en tête depuis que je l'ai écouté il y a plus d'un mois quand Marie m'a confié l'album. Sunset, regardez à quoi ça ressemble. Si ça ne reste pas, je vous fais une séance de Feldenkrais moi-même. Allez, voilà.
Zeppelin, Mozart, la Joconde ou James Dean. Chaque époque a sa star, sa petite Marilyn. Hildegard, Groucho Marx, Picasso, Bécassine. Acrobate de nos rêves, pour danser sur nos filles. Après eux, qui sera là pour inspirer tes choix?
Quand j'ai entendu le titre la première fois, je me suis dit, en fait, il sort que maintenant, mais c'est presque le titre qui pourrait faire la passerelle entre l'univers pour lequel le public t'a découvert dans les années 80 et l'univers d'aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire à la fois ce côté univers de Marie Dauphin qui lui appartient avec ses textes et tout, et en même temps ce côté très coloré, ce côté très chaleureux, l'ambiance et la Marie Dauphin qu'on connaissait sur son côté circassienne qu'on retrouve dans le clip et tout ça. Et fait, je trouve que c'est la parfaite synthèse entre les deux époques.
Tout à fait. Et il y a aussi un autre titre qui va venir, qui est Au pays d'aujourd'hui, que les fans connaissent déjà parce que je le chante depuis quelques temps maintenant en convention. Et on parle de Au pays d'aujourd'hui, clin d'œil au pays de Candy. Mais pour le côté solaire, le maître mot que Gérard et Nicolas Lassu et moi-même on a voulu, c'était vraiment que ça soit un album qui fasse du bien. Ça c'est grâce à Marie Gillin qui était la marraine d'un des spectacles, qui était venue nous voir en spectacle, enfin qui était venue me voir en spectacle, et elle avait adoré et elle m'avait dit mais vraiment tu fais du bien aux gens, je sais pas comment tu te débrouilles, t'es sur scène, tu fais du bien. Et donc elle est devenue la marraine et elle avait écrit pour faire la promo du spectacle, allez-y, Marie Dauphin fait du bien. Et avec le Feldenkrais, ben ça continue. La voix parlée, la voix chantée, le corps, l'esprit, tout ça, c'est qu'une chose. Enfin, je ne peux pas faire de frontières, je déteste les frontières.
Bon, ça va, on sait que tu es capable de le dire d'une seule traite, ce n'est pas la peine de me l'exploser comme ça. Feldenkrais, moi aussi je peux le faire. Il faut quand même rendre hommage aussi à ce qu'on voit autour de nous, à ce dessin qu'a fait Arnaud. Parce que ça renvoie évidemment à l'univers de Marie. Et bien pour la preuve, regardez, réécoutez enfin les deux, et puis profiter, ça fait du bien. C'est Marie-Gina qui le dit, regardez.
Avec l'eau, toutes mes larmes et toutes celles qui passent sous les ponts, ainsi sont sans son mes souvenirs comme des savons. Avec l'eau, toutes mes larmes et toutes celles qui passent sous les ponts, ainsi font ton image.
Ah ouais, on s'en lasse pas. Souvenirs savants. Extrait de cet album 2012 pour lequel bah, j'avais rencontré Marie la première fois. Et voilà, et cet album il est là et il existe toujours. Et voilà, et les chansons se sont installées aussi dans le cœur des gens qui te suivent depuis cette époque.
Les cœurs coffre-fort, entre autres, que je chanterai à la soirée de présentation de l'album.
Qui a lieu quand ?
Alors, attention, roulement de tambour, parce que ça a été très compliqué. Il faut dire que je suis un peu avec beaucoup de choses à faire en même temps, et souvent je suis un peu à la ramasse, un peu dans la lune. Et d'un coup je me réveille, je me dis, ah mais l'album sort le 27, il faut faire un concert.
27 mars.
Voilà, la sortie de l'album c'est le 27 mars. Et je me suis pris trop tard pour trouver la salle que je voulais. Donc il a fallu décaler, et surtout que sur scène il y aura Paul Galliana avec moi et Thomas Bloch, qui est un musicien international qui a accompagné les plus grands artistes, les Daft Punk, les Vanessa Paradis, Annie Lennox, qui est donc un harmoniste.
Ils vont marcher à un moment donné.
Oui, je pense qu'un jour, ils vont saisir la chance. Et Thomas Bloch, je l'ai appelé en disant, je viens de découvrir Londres Martono, que je connais, mais l'harmonica de verre, qui est un instrument extraordinaire, enfin magique, et le son est extraordinaire aussi. Et est-ce que vous accepteriez de jouer pour mon album ? Il m'a dit bah, avec plaisir tout de suite. Et on est devenus amis. Et donc, il sera là le 10 mars.
Mais. C'est-à-dire c'est le problème, c'est que sinon, on l'a raté. Et puis toi aussi. Donc, écoutez, c'était bon. Mais... Hein. Le 10 mai,
oui, mais
27 mars, l'album sort, et le 10 mai, Marie Dauphin sera sur scène normalement. Et je vais même vous dire mieux, c'est en 2026.
Oui, 2026,
parce que sinon, c'est important. Vous allez attendre en 2025.
Non, mais c'est terrible parce que c'est depuis toujours, je m'en mêle avec les heures, les dates. Et j'ai beau me concentrer comme là, hein, je me suis hyper concentrée pour être sûre que ça tombe à coup.
Mais tu sais quoi, je pense que le meilleur moyen pour que tout se recentre,
Le Feldenkrais,
et se replonger dans ses souvenirs savants.
Oh, magnifique.
Ça, c'est pas mal.
Ouais, c'est très bien.
Et ben justement, il y en a un qui va nous y emmener dans tes souvenirs savants. Ah, et je pense qu'il faut que Gérard reste là, parce que je pense qu'il y a des petites choses comme ça qui vont être assez sympathiques. Oui. Tu t'es surpassé.
Ah, bah.
Parce que t'as dit, il y a Marie, il faut quand même qu'on
c'est à Marie de nous le dire après. Oui, oui, bah oui, voilà, je me suis dit, Marie, bon, on a parlé de Bibi Fock, on a parlé de Recreado, on a parlé de Clémentine, on a parlé de Lady Oscar, oui, la petite poupée d'époque. Mais peut-être qu'il y a des moments où ça t'a un petit peu échappé à la télé. Alors, j'avais trouvé une archive intéressante lors de mon travail sur mon deuxième livre sur les visiteurs de notre enfance, avec donc.
On dit rien.
Qui reprenait les émissions de Christophe Isard, j'en dis pas beaucoup. Et il y avait une émission qui s'appelle.
Non.
Ah bon?
Bah non, il faut quand même qu'on la découvre, parce que sinon elle va savoir ce que c'est.
Ah,
et moi je veux vraiment qu'elle. Alors, et tu nous expliqueras après ce que
bon,
c'est.
Bon, j'explique après. Okay,
regardez. Bon,
c'est très furtif, mais il y a une petite Marie. Génial, petite Marie de 14 ans, je pense, qu'on voit.
Je t'ai bien les bras, hein. Groupez, groupez bien. Levez la tête, levez la tête. Attention aux bras. Jetez les bras. Monte un peu, monte, monte. Bon, c'est bon ça. Attention à ton groupage, toi. Une, deux, voilà. Groupez bien vos jambes, attention aux twists là.
On n'apprend pas à faire le clown. D'abord, on travaille beaucoup, on fait de l'acrobatie au sol, on fait de la danse classique, on apprend le fil de fer aussi, mais enfin, c'est pas très nécessaire. On peut faire du jonglage, de la prestidigitation. Il faut tout faire au cirque, c'est très important. Beaucoup de discipline, beaucoup de travail tout le temps, n'est-ce pas Mathieu ? Change de pied.
Oh,
Et ben, et si vous l'avez raté, vous allez voir, il y a la, oui. la petite photo qui arrive derrière qu'on a fait, qu'on a isolée. Regardez-moi.
Poupine.
Alors, je vais vous expliquer là. Arnaud, justement, c'est
alors, bon, c'était une rubrique qui passait dans les visiteurs du mercredi, donc hebdomadaire, et ça s'appelait Les enfants d'à côté. Et là, nous sommes en 1979, et il y avait un reportage sur les enfants du cirque. Et. En regardant bien comme ça, je me dis hop, 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 je crois reconnaître cette personne. Et à mon sens, c'est ta première télé, quoi, 1979.
Ouais. 79, ouais, c'est vrai. Et j'avais jamais vu ces images.
Ah, c'est vrai?
Où on commence bien.
Ah, ça commence pas mal. Ouais. C'est quoi alors parce que la massue fait partie. D'ailleurs, quand on avait fait l'émission pour les 45 ans de Récréa 2,
j'étais venu
avec les massues de Récréa 2.
Mon deuxième
ça fait
jeu.
Partie de ton.
Mon cursus. Oui.
De ton cursus. Et puis surtout de ta signature à l'époque de Récréa 2. Elles sont déjà là, quoi.
Ouais. C'est mes premières massues et encore une fois à l'époque il fallait les fabriquer ces massues parce qu'on les trouvait pas. Dingue. Donc il fallait trouver un menuisier qui tourne le manche et après le manche c'était comme une tige qui continuait sur laquelle on enfilait des bouchons de liège, de bocaux de tailles différentes pour faire cette forme. Et ce qui était bien c'est que du coup on pouvait les façonner à notre jonglage. Mmh. Et moi comme j'aimais bien jongler très vite, le poids de la massue est vraiment... dirigé vers la tête de la massue et pas sur toute la longueur de la massue. Donc, à peine tu donnes une petite pichenette que ton entrée est
génial. Regardez-moi ce petit sourire mutin et tout, comme elle est trop mignonne.
Moi, je suis trop concentrée surtout parce que t'as la caméra qui tourne et tu t'es dit pourvu que ça tourne.
Non, ça tombe pas.
Ouais, ouais.
Alors, la vidéo suivante, bon, Marie... On la connaît, là, ça y est, elle y est.
Oui.
Et en plus, ça conjugue avec quelqu'un que j'ai
voilà.
une admiration incroyable. Tu nous en parles après ?
Bon, bah, je me tais. Non,
t'as failli balancer déjà des trucs qui auraient pu j'aiguiller il y a deux secondes. Pas du tout, elle est tombée. Tu vois, même elle ne veut pas qu'on tombe.
Casse tout.
J'ai rien fait, moi, pour une fois. Regardons cette vidéo et puis on en parle après. Il doit être à peu près 13h.
C'est
Dauphin. Voilà, je crois que ce sont vos véritables débuts sur scène. Alors, je vais vous faire un cadeau, vous ne l'oublierez jamais. Voici votre disque d'or pour avoir vendu d'autant de dauphins.
Merci Jacques.
Il n'y en a pas en Méditerranée. Et ça, c'est de la part d'une équipe de votre chaîne pour que vous passiez un dimanche fleuri. Voilà. Ah ben là, je vous donnerai encore un t-shirt, mais c'est à la fin du programme.
Je peux dire un truc, c'est que c'est grâce à toi que j'ai commencé en tant que comédienne. Ben alors, ils s'en souviennent pas. Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc.
Les voyageurs de l'histoire.
Ah
là, j'étais
eh oui, c'était ma Jeanne d'Arc des voyageurs de l'histoire.
J'ai commencé par jongler dans les voyageurs de l'histoire.
Mais oui.
J'avais les cheveux longs à l'époque.
Ben oui, pour jouer Jeanne d'Arc.
À ses débuts avec ses moutons et je suis partie à Don Rémy.
Et ça s'est bien passé finalement à Rouen, ça s'est bien fini.
J'ai pas été jusque-là.
Ben, mesdames, messieurs, Jeanne d'Arc ou Marie Dauphin, vous choisissez.
Merci.
Oh mon Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en coulisses, j'avais mon attaché de presse, qui était un peu le sosie de la reine Elisabeth. Elle était toujours habillée avec des couleurs flashy, bleu électrique, rose. Voilà. Et on s'adorait toutes les deux. Et j'aimerais bien avoir de ses nouvelles derrière. J'aimerais la retrouver. Bref. Et elle m'avait hyper briefée avant l'émission. Elle m'a dit, Marie, écoute-moi bien, regarde-moi bien, concentre-toi. Tu ne tutoies pas Jacques Martin.
Il n'aime pas ça.
Il déteste ça. Et c'est tout juste si je ne fous pas une grosse en disant, alors Jacques, mais tu t'en souviens pas, mais quel connard. Et donc, mon attachée de presse derrière, elle se liquéfie.
Elle va au casse-pipe.
Qu'est-ce qu'elle lui met dans l'embarras? Bien sûr qu'il ne se souvient pas de moi. Enfin,
Mais il fallait le dire, il fallait le souvenir.
Non, mais c'était hyper spontané.
Pour le coup, c'était hyper spontané. Quoi.
Et tu chantes en direct aussi.
Ce qu'il faut savoir... Alors là, je vous balance toutes les petites anecdotes. C'est que quand on dansait à l'époque, pour être sûr qu'on puisse bien chanter en même temps, on ne faisait pas un vrai playback, mais la veille, on enregistrait sans danser une voix en direct qu'ils enregistraient. Mmh. Et après, en émission directe antenne et directe public, parce que le public était là, on balançait ce qu'on avait enregistré la veille et on faisait le playback sur cette voix. Voilà. Donc, c'était plutôt malin parce que du coup, c'était pas comme le disque et ça sentait le direct. Mmh. Sauf qu'en répétition, dans mon élan de pirouette, ping, le micro m'échappe des mains et il roule à l'autre bout du plateau. Me voilà parti en plongeon digne du plus grand plaquage, plaquage de rugby. Je récupère tant bien que mal le micro. Je me dis, oh là là, l'enfer, si ça arrive demain. Mais c'est pas possible. Donc, quand on me voit chanter, je suis tétanisée. Je tiens, j'ai les phalanges qui sont toutes blanches, mais tellement j'ai la trouille de le perdre. Et l'ingé son, d'ailleurs, au passage, a pas coupé les potards et on m'entend continuer à chanter le truc. Et voilà.
Il faut expliquer pour les gens qui nous regardent, qui ne connaissaient pas donc, les émissions de Jacques Martin. Dimanche Martin, c'était une institution le dimanche après-midi.
C'était la messe. Hein,
la messe. Ça durait
le dimanche matin, après la messe, il y avait Jacques Martin.
Et c'était la garantie quand on passait chez lui de vendre des milliers d'albums derrière.
Ouais. Bien sûr, oui. Donc, la remise du disque d'or. Ouais.
L'attachée de presse, elle était.
Elle était liquéfiée. Mais ceci dit.
Et tu fais allusion à ce passage de Jeanne d'Arc. Ça, c'est assez inconnu, non ?
Oui.
Dans l'histoire de l'histoire.
Oui.
Bah regardez.
Allez.
J'avais la voix pétée.
Oh, c'est trop bien.
C'est génial.
J'ai la voix complètement
cassée. Oui.
C'était très humide dans le coin et c'est pas bon du tout ce que je fais.
Alors c'est bien meilleur que Jean.
Oui.
Donc, toi tu t'en sors bien, t'es jeune. Bon voilà, oui, ça se passe bien, c'est pas évident.
Ah mais toutes mes phrases en l'air, c'est catastrophique. On est devant, sauver le roi, on est devant, sauver la France.
Et alors petite anecdote, mais le générique de ce rendez-vous-là, c'est le générique qui, alors je sais pas si c'était avant ou après, mais qui va servir à Dimanche Martin.
Oui, ça a été décliné de l'école des fans. C'était la même mélodie. Faite par Pino Latuca, le grand pianiste qui était avec l'orchestre de Robert Kibel. Et donc, oui, ça a été décliné comme ça.
Et là, le réalisateur, c'était Christian Vidali.
Très bien.
Voilà.
Et à un moment culte, moi, quand tu m'as proposé ça, moi, je ne connaissais pas. Je ne me souviens même pas de l'émission, mais je n'avais même pas vu ces images de toi dans ces...
Je ne pense pas qu'on les ait vues beaucoup. Hein,
non, je ne les expose pas, si tu veux.
Grâce à nous, maintenant, c'est là. Alors...
Bon.
Le dernier merci, moment, merci. Je pense que là, il faut tu nous expliques après.
Non, mais attends.
Le problème, c'est que si tu vas expliquer.
Non, j'en dis un petit
et ça
peu.
Mais ça va donner une indication à Marie.
Non, je
mais
pense
si,
pas.
Mais
je
si. Ils sont pas frustrés. Je veux pas.
Pas du tout.
Je veux pas.
Bon,
parce que je veux préserver.
Ok, patron, je vais me faire virer sinon.
Ce moment, parce que je trouve que tu t'es. C'est un surpassé. J'adore ce moment. Marie, je te laisse regarder. Gérard aussi. On savoure ce petit moment. C'est assez court, la séquence est assez courte. Tu nous en parles après.
Non, je ne dis plus rien.
Vous allez voir à quel point il est mégalo, il vous envoie dans une petite ville. Voilà, écoutez bien.
Au fil des années, Magnier est devenu un lieu de rencontre et un moment de culture intense autour d'une même passion, l'art. Depuis 10 ans, la commune, l'espace d'un week-end, révèle des lieux où l'artiste peut mettre son talent en exergue.
Je suis un amoureux de l'eau, et de la nature en général, mais quand il y a de l'eau et un beau ciel, là je suis ravi. Ravi parce que j'exprime justement tout ce que... Il y a comme profondeur, comme espace.
Ce spécialiste de la nature est un ancien des Beaux-Arts de Rouen. Il s'est complètement converti à la peinture à l'huile.
Alors
mon petit papa d'amour.
Ça, c'est un super moment quand même.
Ouais.
Alors Arnaud, explique-nous comment tu trouves ça, parce que ça...
Alors bon,
c'est... Bravo,
merci.
Bravo et merci, ça me fait plaisir.
Ah bah oui, il fallait... voilà. Et, l'anecdote est folle. Alors je récupère depuis plus de 30 ans des cassettes vidéo, des Betamax, des VHS, des V2000, et j'ai un banc de numérisation à la maison. Et là, je trouve ce reportage de 98, France 3 Région, dans la ville de Magnier. Alors c'est mon nom de famille, Magnier, ça s'écrit pas pareil. Alors j'entends ça, bon forcément...
Son côté un petit peu égotique.
Non mais je dis, tiens, c'est rigolo, ça fera marrer les copains si je leur montre ça. Comme je te suis depuis forcément très très longtemps, je connaissais le visage de ton papa, tu en parlais beaucoup, et je vois, alors j'entends, je me dis, mais c'est je connais ce monsieur. Et il y a pas, rien n'est écrit,
non,
hein,
bah non,
c'est
non.
anonyme complètement, mais je dis tiens, c'est Pierre Dauphin, ça je pense. Et après, quand il, donc j'enquête un peu, je vois qu'il a fait les Beaux-Arts de Rouen, je me dis oui, ça c'est bien lui. Ouais. Et donc voilà, c'était l'occasion de faire un.
Et j'ai failli venir avec sa casquette.
C'est vrai,
celle-ci.
Ça aurait été dingue.
Ça aurait été complètement dingue. Et puis j'ai dit non, j'ai déjà la veste à paillettes, on va se calmer.
T'avais vu ce petit reportage, tu le connaissais?
Jamais.
Jamais.
Bravo. Je suis content.
Félicitations.
Je pense que tu vas pouvoir. On va pouvoir te faire peut-être suivre les quelques images.
Bien sûr, c'est ça. Bien sûr, c'est pour vous.
C'est très touchant et ça fait peu de temps que j'arrive à voir des images de mon père sans pleurer et entendre sa voix aussi sans pleurer. Il avait une très jolie voix. Et oui, c'est un artiste formidable. Et d'ailleurs, dans le petit village à Oléron, à Domino, il y a une rue qui porte son nom maintenant, la rue Pierre-Dauphin. Je suis très fière et très heureuse d'avoir été sa fille. Et...
voilà.
Et c'est une chance, oui. Vraiment, il a marqué beaucoup d'élèves sur Alfortville. Et c'était un pédagogue et un artiste extraordinaire. Et ma mère aussi était une belle artiste peintre. Et c'est une chance.
J'aime pas ma mère.
Ouais. il y aurait toute une mission à faire sur le pourquoi de cette chanson, mais ouais.
Bah voilà, en tout cas, on voulait te rendre hommage et avoir
beaucoup.
Une pensée pour ton papa.
Et Gérard a fait tourner mon père, il y a un film.
C'est
avec,
vrai
oui, Marie, fait, ouais. Avec Ingrid Chauvin.
Ouais.
C'est Chassé Croisé Amoureux, où on voit mon père aussi.
Voilà, on le voit en train de peindre, c'est sur la scène, enfin sur les bords de scène.
Les bords de scène. Ouais, ouais.
Tu connaissais pas toi non plus cette séquence?
Non, pas du tout, pas du tout. Non, non.
Et il y a une séquence que j'aimerais retrouver. Alors, je
ah oui, alors.
On avait fait une interview avec mon père et j'étais dans son atelier.
Ah,
et
d'accord.
C'est une très jolie interview. On pose des questions à mon père en disant, bon alors, ça fait quoi d'être le papa de... Et je ne me souviens plus.
Bon. Alors, il y a le volume 2.
Oui, c'est ça.
Et il y a la compile des deux albums. T'as tout ce temps-là pour
j'ai
trouver.
Plus le droit de dormir maintenant. Après, tu n'as plus avoir le droit de parler.
Merci.
Mais voilà, c'est
merci
depuis que Arnaud a rejoint cette émission, c'est cette signature aussi qu'on veut apporter. Réserver des petits souvenirs, des petites pépites à ces invités.
Tu arrives à trouver.
Ah voilà.
Non, parce qu'en fait, j'ai travaillé sur, pendant 8 ans sur Récra 2 aussi.
C'est vrai
ouais. Donc j'ai connu Marie, mais on ne se parlait pas. Moi, je faisais des films hyper violents et chantais Bibi Fock. On était
deux univers
différents.
Bref, et j'étais sur les plateaux. Et si par
on
hasard...
te voit parfois.
Oui, bah oui, ah, je vois parfois. Donc si par hasard, bon, tu vois,
comme
disait Marie, un grand barbu,
tout maigre qui ressemble à rien.
Ouais. Comme ça,
c'est pas Corbier, hein.
C'est
attention.
Pas
d'accord, non, Corbier, il était, il était bien en chair,
il était bien en chair.
À côté de Gérard.
Tous ces petits souvenirs savants de Marie qu'on voulait lui faire en cadeau pour accompagner évidemment la sortie de cet album avec Gérard Cuc comme directeur artistique. Je remontre. Cet album-là.
Nicolas Lassieu 27... aux arrangements.
Exactement, qui sort le 27 mars. Et a priori, mais rien n'est sûr, le 10 mai, elle sera sur scène.
Oui, le 10 mai.
Oui, le 10 mai. Vous allez me faire douter, Madame Dauphin. Ah là là, mon Dieu.
Le 10 mai 2026.
Et 2026, évidemment. Et en 2027, on verra si Arnaud a réussi à retrouver.
Et ça sera sur une très jolie péniche à Paris. Et je pense que ce sera plutôt vers les 17 heures.
Très
comme
bien.
Ça, le lendemain, on peut aller au boulot sans se coucher trop tard.
Sans se coucher trop tard. Et bravo, directeur artistique,
ouais, vraiment,
qui était venu. Puis ça nous a permis, évidemment, de vous faire redécouvrir ensemble ces images-là.
Ouais,
et on avait envie de pouvoir faire ce petit cadeau. On va accueillir.
C'était juste important de dire la phrase de Claude Lemel : tout seul, on n'est pas assez. Et pour faire un album, il ne faut pas être tout seul. Il faut être bien entouré. J'étais admirablement bien entouré.
C'est comme moi avec
les Et bravo d'être à côté d'Alexandre parce que c'est une équipe et c'est formidable.
Ouais, je suis fier d'eux aussi. Ils sont très. Ils sont pas mal.
On t'a manqué à vous.
On va passer dans la deuxième partie de cette émission. Attendez, cher Gérard, partez pas. On va vous faire partir tranquillement pendant la prochaine vidéo. On va accueillir notre invité Chris Baranzelli qui va nous présenter son One Woman Show. On va avoir Lola qui va nous reparler du Vietnam. Arnaud qui nous a préparé encore de belles choses. Mais alors, je voudrais vous remettre, j'en ai parlé avec Arnaud hier, en avant, une série qui, moi, a eu une importance quand j'étais gamin. Parce qu'il y a eu une nouvelle version qui a été faite. Il n'y a pas très longtemps, qui pour l'instant est inédite en France. Alors, je vais vous montrer une photo. On va voir si cette photo, elle vous parle. Alors, voyons voir la photo.
Ah, oh là.
Moi, je sais.
Il s'appelle Kabir Bedi. Il a été notamment, je crois, dans L'Espion qui m'aimait, je crois, ou Octopussy, de James Bond. Okay. Et surtout, il a joué...
Dans Sandokan.
C'est dans Sandokan, le tigre de la Malaisie. Donc, j'aurais pu faire un mauvais jeu de mots avec toi, Lola, pour l'avion de retour. Le tigre de la Malaisie, qui est une série qui a été diffusée en 1976 en Italie, qui est passée notamment, je crois, par Antenne 2 et TF1 et par la 5, où moi je l'ai découvert. C'est quelqu'un qui se révolte contre l'occupant anglais sur ses terres, en ayant cette réputation du tigre de la Malaisie. Et puis, moi, je l'avais découvert, j'avais 7-8 ans sur la 5, et j'avais été estomaqué par des séquences assez violentes dans le premier épisode où il est laissé pour mort sur une plage en Malaisie. Et évidemment, les Italiens s'en sont emparés. C'est Guido et Maurizio De Angelis qui signaient le générique original de cette série.
Oliver Onions, sous le nom d'Oliver Onions.
Qui ont beaucoup travaillé avec Terence Hill et Bud Spencer, notamment pour les films. Et alors, ce qui est génial, c'est que les Italiens ont repris. Vous verrez le générique original si vous voyez la série. Et je voulais vous présenter un petit bout du teaser de Sandokan version 2025 pour faire la transition avec notre invitée suivante. Regardez, c'est de l'aventure, du romanesque et tout comme on aime. Regardez.
These pirates, who's leading them?
It's Sandokan.
You can trust us.
Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
I hope this pirate hunter is worthy of his reputation.
By the career you've made for yourself.
You could get married.
See why they call you the Pearl of Labuan.
Men seldom miss a chance to lecture me. I found you on the beach.
Come with me on my ship. We'll travel the world together. You have a choice. End up like them. Or build a new life for yourself.
I swear to you, I will catch them.
Good luck, brother.
You want to be free. Trust me.
Kill everyone.
He's no ordinary pirate.
Super.
Voilà, Sandokan, le tigre de la Malaisie. Pour l'instant, elle a été achetée par aucune chaîne, qui est déjà sortie en DVD Blu-ray en Italie à la fin de l'année dernière, et avec le titre qui est repris. Voilà, la bande originale est disponible, avec le titre notamment culte de Sandokan par Oliver Onions. Voilà, et moi, c'est vraiment une série que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin, en tout cas avec un nouveau visage et des nouveaux talents. Voilà pour Sandokan. Elle nous a rejoint en plateau avec ses 60 nuances. C'est ça.
Exactement.
Ah, 60. Je me suis pas trompé.
Ah oui, pas 50, Alex, j'en ai bien plus que ça.
Tu les fais pas. Chris Baranzelli qui est avec nous pour ce spectacle qu'on va découvrir dans un instant. Moi, je t'ai découvert. T'étais pas encore monté sur scène, on s'est rencontré au Festival de la Fiction Théâtre de La Rochelle.
Exactement, il y a déjà plus de 10 ans, je pense.
Plus de 10 ans, et t'avais déjà quand même un sacré bagou et tempérament. Je dis, ça m'a pas étonné quand j'ai su que tu montais sur scène.
Oui, c'est un peu ma nature.
T'es un peu de nature peinture. T'es passé par la radio aussi.
Je suis passé par la radio tout doucement. J'ai quand même pas pris trop de place encore en radio. J'aimerais, mais.
Et puis maintenant sur scène.
Et maintenant sur scène, exactement.
On va y revenir dans un instant, on va en parler de ce spectacle avec toi. Mais auparavant, je vous emmène pas très loin de là où on était finalement.
Mais tout à fait.
Puisque Lola y a passé les 3 derniers, 15 derniers jours.
2 semaines.
2 semaines. Au Vietnam.
Au Vietnam.
Où t'es partie pour faire un documentaire notamment.
Tout à fait.
Sur cette autrice.
J'ai bien fait la transition.
Dont tu nous avais parlé peut-être pendant ta chronique.
Hein. Ouais, j'avais depuis parlé pendant ma chronique. Depuis le Vietnam, j'ai essayé quand même. C'était pas facile. Il y avait certains moments où on était où il faisait froid, on était sous la pluie. Où j'étais, ok, bon, je vais essayer de tourner quand même quelque chose. Et non, c'était un voyage qui était extraordinaire. Et c'était. Alors, je reviens de 35 degrés.
On était aussi sous la pluie. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas besoin d'aller au Vietnam.
Il n'y avait pas 35 degrés, madame.
Il n'y avait pas besoin de faire 13 heures de vol. Mais oui, en fait, c'est un projet que j'ai depuis très longtemps. L'idée, enfin, ça fait à peu près 5 ans que je fais des chroniques littéraires et que je travaille autour de la littérature et des livres. Et moi, j'ai commencé avec ça, en fait, avec des livres. On pourrait faire une chronique d'ailleurs sur Geronimo Stilton, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment et qui. Voilà, je place l'idée. Mais ça fait très longtemps, en fait, que j'ai cette idée aussi de. Voilà, d'aventure et de voyage grâce aux livres. Et qu'en fait, chaque fois que je prenais un livre quand j'étais petite, c'était un voyage incroyable que je pouvais faire. Et c'était avec Geronimo Stilton. partir au royaume de la fantasy, partir dans la préhistoire, enfin pas mal de choses. Et en fait, c'était des moments fantastiques pour moi. Et en fait, en grandissant, je suis allée chercher justement des livres qui pouvaient me sortir un peu de ma zone de confort et surtout aller lire des livres étrangers parce que sur des rentrées littéraires ou sur d'autres sorties, on peut voir qu'il y a quand même une grosse part de littérature française dans les sorties, des livres qui sont mis en avant dans les librairies, etc. Et je trouve ça très très important de rendre hommage aussi à des maisons d'édition qui mettent en avant des textes de littérature étrangère et notamment de la littérature asiatique parce qu'il y a peu de textes qui sortent aujourd'hui. Et je suis tombée sur ce livre-là, totalement par hasard. C'était une collaboration avec les éditions Point, qui m'ont dit, bon, on t'envoie notre catalogue, tu nous dis les livres que tu veux présenter en librairie, et on fait un format autour. Et puis je regardais un peu, et puis je tombe sur ce livre, qui s'appelle Pour que chantent les montagnes, qui est l'histoire d'une épopée familiale pendant la guerre au Vietnam. Et donc il y a plusieurs périodes, et plusieurs visions de la guerre, avec une petite fille qui voit la guerre, à hauteur d'enfant, et qui dialogue avec sa grand-mère qui elle-même a vu la guerre. Et donc les deux vont parler et on va avoir cette épopée familiale qui s'étend au nord du Vietnam à Hanoï. Et depuis ce jour-là où je l'ai présenté en librairie, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille plus loin dans cette idée de découverte et de voyage et que je puisse aller rencontrer justement les auteurs pour aller voir directement ici par exemple les territoires à Hanoï dans le nord du Vietnam. Mais aussi un autre livre qui s'appelle « Là où fleurissent les cendres » de l'autrice, qui s'appelle Nguyen Phan Ke Mei, pour découvrir Ho Chi Minh, Saigon à l'époque. Et c'était vraiment un voyage extraordinaire parce que ça s'est décidé sur un coup de tête. L'autrice, elle n'habite plus au Vietnam. Elle est née là-bas, elle a grandi là-bas, elle a fait ses études à Ho Chi Minh. Mais elle est partie au Kyrgyzstan avec son mari. Et donc j'avais potentiellement le choix d'aller faire une émission au Kyrgyzstan, mais j'ai décidé d'attendre qu'elle me propose des dates sur le Vietnam. Et elle m'a appelée mi-janvier en me disant « Voilà, je suis là fin février au Vietnam. Si tu veux tourner quelque chose, c'est maintenant. » Et je me suis dit que voilà, j'allais saisir cette chance. Ah, et donc,
moi
je
aussi,
partie...
on m'appelle pour aller à Montreuil. Hein. Et j'en fais pas toutes des chroniques.
Tu devrais faire une chronique, hein, franchement. Et donc, on m'appelle pour partir au Vietnam. Et je suis partie avec mon copain qui est réalisateur, qui est photographe et donc qui a fait toute la partie technique du documentaire. Et c'était un voyage qui était extraordinaire parce que c'est extrêmement dépaysant et c'était surtout fou de pouvoir découvrir les paysages qu'on a dans ces livres et les avoir sous ses yeux, d'avoir l'impression... Ici, moi, j'avais la chance quand même d'avoir les personnes qui me suivaient sur ma chaîne, qui l'ont commencé et qui ont commencé à lire ce livre pendant que je mettais des images pendant mon voyage pendant 2 semaines. Et donc, c'était vraiment un voyage qui était fou et j'ai hâte de vous montrer ce documentaire-là.
Oui, on a hâte de le voir.
J'aurai l'occasion d'en reparler un peu, évidemment, dans l'émission. Non, pas du tout, c'est ma seule chance.
Je serai invité.
C'est gentil.
Bah, évidemment.
Donc voilà, c'était vraiment génial. Et puis, c'est aussi la chance de faire le travail que je fais, c'est pouvoir voyager et avoir l'opportunité de toujours parler de littérature, mais depuis l'étranger, et travailler avec des maisons d'édition, même quand on est à distance, et pouvoir faire de belles chroniques et découvrir des jolis textes. Et en particulier, ce texte-là que je vous conseille vraiment, qui s'appelle « Pour que chantent les montagnes » de Nguyen Phan Ke Mei, sur la guerre, parce que c'était pas facile non plus. Il y avait, évidemment, quand on part au Vietnam, c'est pas facile de parler de la guerre, d'avoir des autorisations pour filmer, pour parler de ces sujets-là. Oh. Donc, je remercie vraiment l'autrice parce que elle a joué le jeu à fond. On était dans les rues d'Ho Chi Minh et elle me disait Mike, elle me disait je peux avoir le micro, j'ai des choses à te dire. Et donc je lui disais ok, c'est parti, on démarrait, on mettait la caméra et on lui donnait un micro. Et puis elle nous racontait sur évidemment des choses sur son écriture, sur elle-même, sur son parcours, sur la littérature. On allait dans les librairies là-bas à Ho Chi Minh et c'était fou. Je voyais des livres de Guy de Maupassant, je voyais des livres de Camus, je me disais c'est dingue. C'est aussi ce pouvoir-là que je voulais montrer dans ce documentaire, c'est montrer à quel point la littérature permet de voyager et surtout la littérature est partout. Trouver un Maupassant à Ho Chi Minh quand on a l'impression d'être au bout du monde et d'être déconnecté, c'est chouette aussi de retrouver des bouts de pays dans plein d'endroits et d'avoir l'opportunité de voyager à travers la littérature.
C'est comme de tomber sur Lola Moreau au Vietnam, tu penses être déconnecté de tout, tu la suis sur ton téléphone toute la semaine, tu
tombes
sur elle dans une rizière avec un micro. En train de faire ses chroniques.
Alors j'ai failli ne pas rentrer quand même parce que avec la situation actuelle c'était un peu compliqué. Mais on a choisi la seule compagnie qui... Bon, mes parents n'ont pas dormi de la nuit quand je suis rentrée parce qu'on a quand même survolé un bout de l'Iran donc ils étaient un tout petit peu inquiets. Mais non, c'était vraiment très 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 beau comme voyage. Ça laisse des images qui sont absolument indélébiles dans la mémoire.
Tu viendras nous en présenter.
Avec plaisir. Avec plaisir.
Nous en présenter. Et c'est vrai que la semaine dernière j'étais très heureux quand j'ai présenté vos deux chroniques Vous étiez là au Vietnam, l'autre à Cuba, parce que je me suis souvenu.
Deux ambiances.
La première étape, c'était de me dire j'ai les nerfs, ils me gonflent tous les deux. Et en même temps, la deuxième étape, je me suis dit ça m'a rappelé ces grandes émissions jeunesse qu'on avait quand on était gamin, où tout semblait possible, où vous pouviez partir en Martinique, en Guadeloupe, à l'autre bout du monde pour tourner des reportages, soit dans Récréado ou dans Croque Vacances. Et ça fait partie des moments qui ont été chouettes. Donc voilà.
L'ouverture sur le monde à chaque fois.
Exactement. Donc je vous ai détesté un moment, puis après, je me suis dit bon, allez, c'est pas grave.
Merci de nous aimer quand même.
Quand même. Je les aime bien, ils sont bien gentils. Bon, je vous présente une autre artiste qui nous rejoint. Là, on va passer dans un univers qui est autre univers radicalement opposé, mais en même temps qui est complémentaire de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Elle monte sur scène, elle s'empare de la scène pour nous faire rire, et Dieu sait qu'en ce moment, on en a besoin.
Oui, oui, il paraît.
Avec une affiche qu'on va voir apparaître, peut-être, voilà, 60 nuances de Chris. N'y allez pas pour son tour de poitrine. Franchement, vous êtes désagréable avec vous-même, chère. Vous êtes magnifique.
Oui, merci. Non, faites pas trop.
C'est tout ce que vous aurez de ma part. Comment est né ce spectacle?
Alors, ce spectacle, il est né de début de chronique, en fait, que moi j'écrivais déjà pour moi. Et à un moment donné, quand même, il fallait que je passe le cap. Et j'ai rencontré une amie qui, elle, on lui avait écrit son premier seul en scène. Et là, je me dis, bon, c'est bon, là, stop, ma fille, tu y vas là. Et je me suis inscrite à l'école du One Man. Ça m'a permis de me lancer vraiment et d'aller faire des comédie clubs et d'écrire encore plus et plus vite, en fait, et de se confronter au public. Et après, moi, j'avais déjà mon fil conducteur en tête. Et du coup, en un peu moins d'un an, j'ai écrit mon spectacle. Et là, je me suis dit, c'est parti, merde, c'est ce que je veux faire. Donc, je me suis lancée vraiment.
Il parle de quoi, ton spectacle?
Parce Alors, mon justement... spectacle, il parle de...
Il ne fait pas des 60 ans, tu vois.
C'est bah ça non,
il...
évidemment. Non. Je suis à la moitié.
Évidemment.
Oui, bah pareil. Ouais. Ma mari, on a un jour d'écart. Donc,
évidemment, moi aussi. on s'enfonce.
Et bien alors, dans mon spectacle, en fait, il parle des années 90. Donc, de tous mes souvenirs au niveau du collège. Il parle aussi beaucoup de moi, la quarantenaire, où je vais parler de sujets tabous. Mm-hmm. Mais moi, sans tabou, n'est-ce pas? La mammographie, de poils, d'esthéticienne, de sexe, d'alcool. Il y a aussi de la chanson, parce que j'ai appris la guitare pour le spectacle. Donc, je vous fais chanter. Parce que vous verrez que la chanson ne fait pas partie de mes qualités. Voilà. Donc il y a de la guitare, il y a de la chanson, de la musique, et il y a aussi une petite surprise à la fin. Je ne veux pas vous spoiler, mais
ça bouge. Que tu distribues au public.
Ah, j'avais pas pensé. C'est plein le 22 mars pour ma dernière à Paris. Je sors le champagne.
Ça c'est pas mal. Donc le 22 mars, ce sera à Paris, ce sera où?
Oui, au Mélo d'Amélie. C'est ma dernière à Paris. Après, je pars en tournée dans le sud. D'accord. Donc là, je suis désolée, mais va falloir venir.
22 mars.
Ouais, 22 mars, au Mélo d'Amélie.
2026, hein.
Non, mais t'inquiète pas, Marie, regarde, j'ai tout ce qu'il faut. Hop là.
Voilà. Elle est maligne.
Oui, ça fait un peu plus d'un an que je joue ce spectacle. Donc, j'ai joué sur Paris, j'ai joué aussi deux fois à côté de Lyon. J'ai commencé Manosque, donc j'ai commencé le Sud un peu en janvier. J'ai joué dans le 92, dans le 91, voilà, autour de Paris. Et j'ai fait Avignon l'année dernière. Et là, je reprends Avignon cette année.
Quel courage, mon Dieu, ah ouais. Avignon.
Ouais.
Serait-ce que pour tracter,
déjà fatiguée d'avance, c'est sûr.
Moi, j'ai jamais fait Avignon tellement je pense que c'est l'enfer.
C'est très dur et en même temps, c'est très agréable. Mmh. Voilà. Enfin, t'as vraiment les deux, mais t'es épuisé.
Tu rentres, t'es épuisé. Ouais.
Parce que le but, c'est de remplir tes salles.
Ouais, c'est très compétitif.
C'est très compétitif. Après, les gens sont là pour ça, donc tu fais des super belles rencontres. Mmh. Vraiment. Okay. Parce que moi, je passe ma journée à parler aux gens, comme je fais là.
Même sur spectacle. Hein,
même, oui, et puis.
À La Rochelle, je te vois faire.
Ah, La Rochelle, je fais
elle
pareil.
Elle a une espèce de bagou naturel. C'est-à-dire, vous avez envie de sympathiser avec elle, voilà. Forcément, dès le départ, quoi.
Ouais, je vais dans les festivals, donc c'est où j'ai rencontré Alex. Mais là, je fais à Cérimania dans deux semaines. Après, je vais faire Cannes. Ça fait longtemps que je ne suis pas à la Cannes, donc j'y vais. Voilà, donc.
Un beau périple.
Oui, il y a un beau périple.
Est-ce qu'il y a une façon de faire de l'humour féminin?
J'avoue, j'ai pas de méthode en fait. L'humour, c'est. Alors, moi, j'ose. J'ose, tu verras le 22. J'ose vraiment. Voilà, c'est ce que j'aime en fait, c'est dépasser les barrières. Mais sur scène, c'est moi, Alex, c'est comme je te parle là. En fait, c'est moi, je vais te raconter plein de trucs. Mais je suis pas. Il y a des personnages que je joue, mais je suis pas un personnage moi-même. Tu vois ce que.
Je me fais bien comprendre.
Tu vois, s'il y en a qui jouent sur scène mais qui savent pas être eux-mêmes, alors que là, c'est vraiment. Je vais vous
nature peinture.
Pareil. Ouais.
La tire peinture, ceux qui diront après le spectacle.
Seulement que j'essaie de faire des blagues quand même, il y a des punchlines, c'est comme on appelle drôle. Ça. J'essaie d'être drôle, voilà, il y a des personnages, de la musique et tout ça. Voilà.
Quand on monte la première fois sur scène, il dure combien de temps le spectacle ?
Alors, dans la théorie, 1h15.
Dans la pratique, 3h25.
Voilà, 1h15, il faut que je fasse 1h05 à Avignon. Mais en vrai, à chaque fois que je le joue et qu'il n'y a personne derrière, c'est 1h30 quoi.
Ouais.
Voilà, y a rien à faire quand j'ai des belles salles et que. Tu vois, Clamart, il y a 2-3 semaines, Clamart, on voit une salle de 120, je veux dire 1h30 quoi.
Mmh. Et la première fois que tu montes sur scène, tu t'es ressenti comment ?
Ah bah la première fois, c'est flippant. Hein. Ouais, la ma première, donc c'était l'année dernière, ouais. C'est... Non, ça. Mais moi j'ai le trac tout le temps. Hein.
Bah oui.
J'ai le trac tout le temps, les 5 minutes.
Mais si, il faut.
Il faut avoir
le trac tout le temps.
Non, moi je suis quand même d'accord avec Marie.
Raison,
il faut avoir le petit trac en fait d'avant, c'est du bon trac. Ouais, je suis un peu dyslexique. Hein, mais...
T'inquiète pas, on t'aime quand
même. Voilà. Non, il faut l'avoir. Moi je l'ai à chaque fois. Hein. Mmh. Je l'ai. C'est-à-dire qu'une heure avant, je me dis non, c'est bon, ça va aller. Et puis alors les 5 minutes avant.
Qu'est-ce que je fous là ?
Là, je transpire ça sur le bras.
Pourquoi je repars pas maintenant ?
Oui, alors c'est ça. La phrase, c'est mais pourquoi je m'inflige ça ? Et après, tu dis bah ouais. Dès que t'as sorti les premiers mots et que les gens rigolent, tu dis bah ouais, voilà, c'est ça. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi.
Et alors, pour revenir à ton spectacle, justement, tu disais tout à l'heure, j'ai grandi. Je parle de ce que j'ai grandi dans les années 90 et tout ça. T'as grandi avec quoi dans les années 80 aussi ? Alors, c'est pas de faire croire que c'était que les années 90.
Oui, mais 80, j'étais petite quand même.
Oui,
c'est sûr. Elle était pas
née. J'ai grandi avec quoi ? Alors, moi, je viens de Lyon.
Ouais.
Enfin, de l'Ouest lyonnais. Donc, j'ai grandi là-bas.
Chanteur préféré.
Et Paris, ça pas. Paris. Mes chanteurs préférés, il fait partie du spectacle, mon chanteur préféré.
Ah.
Donc, je vais vous aider.
Ah,
donc,
alors, pas dire.
Je vais pas vous le dire, mais vous allez trouver facilement. Je veux dire, dans les années 90.
Rock voisine ?
Non, alors, oui, parce qu'il y avait.
Ça aurait pu.
Alors, moi, ma meilleure amie, c'était Rogoisine, et moi, c'est l'autre. Hein, c'est l'autre.
Patrick Noël.
Ah, bah, peut-être.
Il faut qu'il vienne te voir sur scène.
Oui, bah, alors, justement.
C'est la grande Bruelle Mania.
C'est un message envoyé
à Patrick.
À travers les ondes, voilà, il vient nous voir, et puis on fera. Et t'as grandi toi aussi à la télévision ? Tu as regardé des choses à la télévision ?
Moi, je regardais beaucoup de dessins.
Parce que t'es quand même rentré dans ce plateau en disant : mais oui, je connais Marie.
Et oui, parce qu'en fait, j'ai entendu son nom de famille tout à l'heure, parce qu'on s'est présenté juste Marie par le prénom, tu vois, et en fait, effectivement, oui, je connaissais Marie.
Évidemment.
Enfin, voilà, pas en vrai.
Pas en vrai, maintenant c'est fait.
Non, mais moi, je regardais beaucoup les dessins animés, je regardais le Club Dorothée, hein, comme toi,
oui,
j'imagine.
Évidemment.
Voilà.
Non, moi, j'étais trop grand à l'époque, je ne pouvais plus.
Je regardais le Club Dorothée.
J'étais plus récréative.
Bah moi j'ai commencé, je suis né avec Récréa 2, donc pile. Donc,
ah oui, moi c'est après le Club Dorothée, c'est ça ?
Le Club Dorothée c'est après,
voilà.
C'est vrai que moi j'aime ces périodes-là, aller jusqu'au début des années 90, où il y avait ce côté un peu authentique de ces émissions-là, et que moi j'aimais beaucoup ce côté, comme il y avait sur Récréa 2, c'est-à-dire ces plateaux où il se passait plein de choses, où c'était divers et variés, où il y avait de la folie, et on sentait pas que c'était calculé, que c'était millimétré et tout ça. Et c'est vrai que c'est comme ça que moi j'ai eu envie aussi de faire ce genre de métier là, c'est ça qui est chouette.
Et moi je regardais beaucoup Hélène et les garçons.
Ah oui, évidemment.
Voilà. C'est vraiment ma génération.
C'est là qu'on voit qu'on n'est pas tout jeune, hein, mon cher.
Ouais.
Non,
écoute, oui.
Hein. Mais toi, non, mais pas à l'époque, mais je regardais quand il y avait des.
Non, mais toi, on ne te parle pas.
C'est comme ça que tu veux que je te dise.
Non, mais j'ai adoré regarder, enfin regarder ensuite.
Et découvrir.
Et découvrir.
Ça s'appelle 60 nuances de Chris. Et si vous ne l'avez pas encore découvert, allez la voir au Mélo d'Amélie. Le
22 mars à 19h30, et après on prend l'apéro.
Et après on prend l'apéro avec elle.
Voilà. Et après, voilà. Je parle dans le sud, donc c'est la dernière parisienne.
Mais à Avignon, sinon, allez la voir.
Et à Avignon,
c'est
et à Nice.
Plein de peps, plein d'énergie, plein d'authenticité. Voilà, et c'est vraiment. Voilà, il faut aller la découvrir. Vous allez vous régaler.
Merci Alex, merci à tous.
C'était vraiment. Reste avec nous parce que.
Ne bouge pas.
On va finir avec une petite pointe de nostalgie avec toi, mon cher Arnaud. Double pointe de nostalgie.
Double, ouais.
C'est sur toi en même temps, tu le portes sur toi.
Oui, je me suis dit, je suis moi-même doré à point, donc je vais parler d'une huile de notre enfance et des frites végétalines. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée de montrer le phénomène, parce que on connaît cette marque, ce sont des personnages qui ont disparu un petit peu, mais ils ont fait partie de notre vie au quotidien. Et l'idée est intéressante, parce que j'avais parlé il y a quelques semaines de fruits d'or avec le professeur Tournesol, légère,
comme la campagne.
Et puis d'or, et voilà, toutes ces huiles-là. Et en fait, il y avait une petite guéguerre et la végétaline a été inventée comme ça. C'est fait à base de, donc c'est de l'huile végétale. Sur les premières publicités, vous verrez qu'il y a des noix de coco parce que ça s'est tiré de l'huile de coco, l'huile de copra. Alors qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est le blanc en fait de la noix de coco. Ça s'appelle l'albumène en langage botanique. Et on lui fait subir l'hydrogénation, c'est-à-dire qu'on injecte de l'hydrogène à mort pour la saturer. Tous les atomes de carbone sont saturés. C'est la partie un peu scientifique. Et c'est-à-dire qu'on peut augmenter la température de fusion et quand on la refroidit, ça devient solide. Et donc on peut en faire des plaquettes et des machins. Et voilà. Donc voilà comment est née l'idée de végétaline. C'est né au début du siècle 1900, du siècle dernier 1901. Et c'est né à Marseille. C'est français. Et c'est français, monsieur. Alors derrière moi, vous allez voir quelques publicités d'époque parce que ils se sont cherchés un petit peu. Voilà. Donc là, c'est une toute première publicité de 1957. Et ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Parce qu'on peut faire, c'est de l'huile végétale, donc on peut faire frire de la nourriture. Mais parler de poisson frit ou ce genre de choses, ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce que réclament les enfants à la cantine quand il y a de l'huile?
C'est des frites.
Et donc ils ont axé leur com sur la frite. Par la suite. Donc voilà, alors c'est pas forcément sexiste, il y a aussi une pub avec un homme, hein, je tiens à préciser. Et, mais bon, alors leur argument c'était de dire que c'était deux fois plus léger, alors que c'est pas forcément vrai du tout, parce qu'au contraire c'est très calorique la végétaline. Et si on en mange trop, on en peut avoir des risques cardiovasculaires, donc pas trop abuser avec ça. Mais ils sont partis du principe en évoluant. Alors c'était d'abord marseillais, après c'était repris par Huilor, donc une société bordelaise. Et Huilor donnait des. Voilà, donc là vous avez vu, il y a la noix de coco là qui apparaît. Et Huilor avait pour force de mettre des primes quand on achetait, c'est-à-dire des objets quand on achetait l'huile. Et l'huile Huilor, et donc il y avait des petits objets donc, comme des voitures, des petits personnages, il y avait notamment la saga Astérix. Et ils ont eu cette idée de personnaliser les frites et de les rendre quelque part un peu sexy. Et voilà. Alors, tout ça, on arrive en 1975. En 1975, la télévision est bien plus présente dans les foyers français. On passe à la couleur aussi pour Antenne 2 notamment. Et donc, les publicités se doivent d'être très colorées, très chantantes. Et voilà, l'arrivée de ces frites-là qui nous donnaient envie de manger donc, et d'utiliser la végétaline. Alors,
donc ça, c'est des parties papier de publicité. Papier, mais ouais. Évidemment, tu es arrivé
avec des publicités. Dans mon sac à malice, bien évidemment, je vous ai trouvé des publicités.
On va avoir une première publicité végétaline. Première, ouais. Ça va forcément vous rappeler des souvenirs.
Tendez l'oreille.
Ah, écoutez, regardez la première.
Végétaline est fluide, si fluide qu'aussitôt sortie du bain, les frites s'égouttent rapidement, se sèchent toutes seules. Dorées, croustillantes et si légères, végétaline, les frites non huileuses.
Oui, ils sont capables de tout. Alors, Liliane Davis qui chante la petite mélodie, là, Liliane Davis qui a fait Pousse Pousse.
Grande choriste.
Et puis, bon, c'est quand même fou. Ils se sont dit, on va faire acheter de la végétaline aux gens en rendant les frites sexy. Il y a quand même un problème quand même dans la société française à une époque de sexualiser des frites.
Il faut recadrer dans le contexte des années 70, la liberté sexuelle de 68. Lui, les magazines où les femmes étaient nues et c'était une force.
Force d'achat. Et c'est les mamans qui nourrissaient les enfants à l'époque, plus que maintenant les papas et les mamans. Et donc forcément, c'est
on peut pas vilipender comme ça ce qu'on voit maintenant. Avec, non, absolument. Il faut le remettre à l'aune de l'époque.
Exactement.
Complètement. Ouais. Et on a quand même d'autres pubs.
On a d'autres pubs, oui, ça évolue. Alors là, elles se trempent dans l'huile, elles sont contentes, elles sont légères, et puis elles s'égouttent vite.
Elles bronzent.
On regarde la pub suivante, regardez.
Végétaline, une huile à faire les frites. Et oui, une huile 100% végétale, qui s'égoutte parfaitement. Végétaline fait des frites qui ne graissent pas les doigts. Et si légère, les frites non huileuses végétalines.
Donc là, ils étaient partis sur ce slogan comme ça pour dire ça ne graisse pas les doigts, un peu comme Tritz se fond dans la bouche, pas dans la main.
Oui.
Il y a des choses qui restent en tête comme ça. Et la voix, alors est-ce que vous avez reconnu la voix de,
non.
du monsieur
une voix hyper grave.
Mais une voix grave qui a fait beaucoup de doublages. C'est un comédien, un grand comédien, qui a fait un dessin animé qui passait dans Récréa 2. Très connu avec un robot qui
est le...
le prince de l'espace, Icarus. Ouais, c'est Daniel Gall qui
faisait là-bas. Qui va faire après l'inspecteur Klein dans.
Qui... Oui, il en a fait plein. Il faisait aussi le personnage qui joue Hulk, qui se transforme.
Ah oui
en David Banner, il en a fait plein.
Bill Bixby. Et,
Bill Bixby. Et donc, il a fait pas mal de voix de pub aussi. Et donc, il fallait ce côté. Charmeur visuel et envoûtant ténébreux avec la voix. Donc là, on commençait à se rapprocher sur pas mal de choses. Et dans les années 80, la marque Huillor passe le relais à Le Sieur et qui donc continue sur cette lancée en disant pas d'erreur, c'est Le Sieur. Enfin, c'était les slogans qu'on entendait à l'époque. Et il y a donc une évolution aussi dans la pub qu'on va voir juste après maintenant.
Certaines frites sont parfois huileuses, grasses, indigestes. Essayez plutôt végétaline.
Oui, avec végétaline, les frites sont plus légères, les frites sont plus légères. Oui, prenez végétaline.
Elle vous réussira bien vos frites. Végétaline, essayez les frites légères.
Écoutez, voilà. Toujours ce côté très cabaret, très...
Bah oui, bien sûr, parce qu'il faut représenter la frite, quoi. Donc, je cherche pas à cautionner le truc, mais bon, voilà, c'est
non,
rigolo.
Non, mais on l'accepte tel qu'il était à l'époque.
Bah oui, oui. Et puis bon, je vous en ai trouvé encore. On a le temps pour une dernière.
On a la dernière. On regarde la dernière.
On est en 1987, regardez. Et une des dernières pubs. C'est fort.
Quand les frites se sont bien baignées, qu'elles sont croustillantes et dorées, Végétaline redevient naturellement solide et garde toutes ses qualités.
Oui, avec Végétaline, c'est vraiment très facile, c'est une huile magique.
Végétaline, l'huile magique.
C'était le... Pardon, mais ils étaient quand même très très forts à l'époque, parce que c'est quand même l'époque... La seule époque où on pouvait danser sur des pubs pour des frites, comme si c'était un tube venu de l'espace. Quoi.
Mais complètement, mais il y avait un gros travail sur là, justement, parce que les images de synthèse existaient déjà, mais coûtaient trop cher. Donc, on dessinait. Et donc, voilà pourquoi les dessins animés, enfin, l'animation des publicités, et créer une mascotte comme j'ai pu les porter aujourd'hui. Et là, ils ont associé tout. C'est-à-dire qu'on a le côté aussi qui se rigidifie quand ça se refroidit. Et donc, ils ont fait une patinoire avec les frites qui font une choré dessus.
Mais je ne sais pas ce qui est le plus étonnant, c'est que c'est plus qui existe du côté d'un t-shirt à l'effigie de la végétaline.
Alors oui, il y a plus étonnant. Je l'ai là. Tu l'as pas vu encore ça, j'ai
non, qu'est-ce mais...
Ah, un vibromasseur végétaline.
Tu t'es fait mouler, t'as la petite frite.
Hein. Alors attention,
non, vous n'êtes pas prêts. C'est un vrai objet que j'ai trouvé. Il existe en 33 tours végétaline.
Fais voir. Ah, mais je veux voir à quoi il ressemble.
Qui reprend. Alors attends, ça faut que je le cache parce que c'est pour après. Mais qui reprend donc tous les codes de la publicité. Ce ne sont pas les chansons des publicités, ce sont des chansons de l'époque, mais ils ont fait un best-of végétaline. Voilà, donc il fallait l'avoir, je l'ai, il est là.
Et les titres derrière, c'est quoi enfin,
c'est un peu de tout, mais c'est de la variétoche de l'époque, quoi. Mais il n'y a pas.
Ouais, non, rien à voir. Chuck Berry.
Oui, oui, il y a.
Bill Haley et les comètes.
Pour danser comme une frite.
Alors voilà, oui.
Avec végétaline.
Voilà. Donc j'ai.
Hallucinant.
Oui, oui, c'est une rubrique qui donne la patate. Hein. J'ai épluché mes archives. Bon, voilà, j'arrête là.
C'est hallucinant, mais il est trop fort cet Armand. Bravo. Il est trop fort. Bravo.
Merci tout le monde.
Mais garde la main. La main parce que cette émission, on la renferme toujours sur cette nouvelle pastille qu'on a lancée, qui a maintenant même un nom, c'est un jingle, ça tout. On refuse devant rien.
On recule.
C'est le Solitube. On exhume les tubes du fond de l'espace, au moins. Le Solitube, c'est maintenant. On réhabilite des chansons. Et parfois, on se dit. Faudrait pas les réhabiliter, puis parfois on se dit bah faut les réhabiliter. Alors on a eu la poule.
On a eu la poule de Sim, on a eu plein de choses sympas, et puis bah là on reste dans Daniel Gall, donc ce monsieur dont on vient
la voix parler. De Actarus.
La voix d'Actarus, pour situer dans
de Goldorak.
Il a sorti un disque voilà, qui s'appelle Desperado Muerte, où, où on raconte donc les aventures d'un
justicier, cowboy solitaire.
Un cowboy solitaire qui s'éloigne, voilà. On a un petit extrait. Ah bah vous l'avez là.
Et on va écouter parce que on a un extrait de cette chanson.
Bah oui,
alors qu'en audio malheureusement, mais si vous souvenez un peu
de la. Je n'ai pas trouvé d'archives.
Et moi non plus, j'ai pas trouvé.
Ils sont pas allés jusque là.
Mais si vous vous souvenez de la voix de Goldorak, de Actarus,
bah oui.
Vous allez forcément vous en souvenir. Fermez les yeux, écoutez Daniel Gall en mode crooner sur son cheval au soleil couchant. Ça donne Desperado Muerte dans le Solitude. Regardez, écoutez.
Vamos.
Je galopais dans la plaine, droit vers l'horizon. Je fuyais mes crimes et mon passé. Tu m'es apparu sur un escarpement rocheux. Ton pur sang noir et ta silhouette se découpaient sur le ciel embrasé du soleil couchant. J'étais fasciné. J'ai lancé ma monture à ta poursuite.
C'est, ouais, y a,
c'est beau, hein, c'est franchement. Sympa, on l'imagine. Mais ça vole, il va très très bien.
J'ai lancé ma monture. Non, ça va.
Je, ouais. Ça a dû faire ouais. tellement de petites de, petits de ouais. Ah,
mais oui, complètement. Ouais. C'était un peu l'idée.
Solitaire.
Ouais. Et ça a été une très très grande voix du doublage, Daniel Gall. Et dans les années 90, c'est lui qui a été à la pointe pour refaire valoir le droit des comédiens dans le doublage, pour qu'ils soient reconnus dans l'exploitation, notamment vidéo, de leur voix. Ça a été quelqu'un de très 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 important. Il y a quelques années maintenant, mais c'est vrai que c'était une voix très importante du doublage, et c'est vrai que ça fait partie des moments dingues d'avoir retrouvé ça. Bravo,
absolument, merci. Oui, puis je dois être un des rares dingos à avoir eu le disque.
Avant le 45 tours, oui, ça je te confirme. Je te confirme, Daniel Gall, Desperado Muerte, le solitube de cette semaine. Et, oui. Et puis on sera de retour évidemment la semaine prochaine avec d'autres solitubes grâce à Arnaud. Je rappelle que donc le 22 mars, cette fois-ci c'est bon. On est bon. 22 mars
2026.
2026, il y aura 60 nuances de Chris.
Ouais.
Oui. Ce sera au Mélie d'Amélo.
Au Mélo d'Amélie.
Au Mélo d'Amélie.
C'est aussi
on mettait dans l'ordre, c'est bon, ça marche quand même. Vous trouverez l'adresse. Et normalement, si tout va bien toujours, le 10 mai, sur une péniche à Paris, vous allez avoir le bonheur de réécouter Marie Dauphin avec son album À venir.
Ouais.
Qui est là, voilà, et qui.
L'album qui fait du bien.
L'album qui fait du bien et la première partie d'un autre projet plus.
Ah, mais j'ai oublié de dire que j'ai une première partie.
Ah. Et voilà.
C'est Wilfried Roux.
Ah, bah oui, le fils de Corbier. Oui,
fantastique.
Exactement. Alors là, franchement, moi je dis, on vient. Voilà. On vient tout de suite.
On vient tout de suite. L'album est déjà en pré-vente. Hein, donc, allez sur le site Dame de Cœur Productions.
Par contre, on me signale qu'il attend depuis le 10 mars à la salle et qu'il n'a vu personne arriver. Donc je ne comprends pas. Wilfried, on t'embrasse. Ah, mais c'est génial, ce petit clin d'œil. Oui, je trouve ça.
Un autre copain de l'émission.
C'est la maman de Wilfried, la femme de Corbier, qui s'est occupée de mon costume de scène.
C'est ça, Dion, hein, je crois que
Dune.
C'est ça. Dune. On va là, il faut qu'on les fasse venir. J'ai dit, il faut qu'on les fasse venir tous les deux.
Carrément.
Et on en profitera peut-être pour le concert. Bah, évidemment, ce sera l'occasion. Tiens, vous savez qu'on aime bien mettre en avant aussi des artistes qu'on reçoit, parfois des dessinateurs. On l'avait reçu, Isaïe Mial, parce qu'il avait sorti, il avait sorti un album autour de. Il s'était réapproprié les héros de la pop culture. Ça s'appelait Shonen Avengers. Il sort un deuxième volume en 2026, normalement, on l'espère, avec la suite. Et là, en fait, il a imaginé un recueil. Il a pris tous les héros de la pop culture et il s'est demandé qu'est-ce que ça donnerait si c'était des femmes au lieu que ce soit des hommes. Et donc là, bah voilà. Il a envoyé ça. Alors, je ne les montrerai pas tous parce qu'il y a des trucs un peu inédits. Mais voilà, si Sangoku Dragon Ball, c'était une femme, ça donne quoi ? Il y en a d'autres là, mais ça, c'est les cadeaux qu'il envoie. Je ne vais pas spoiler à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Mais alors, par exemple, alors, merci déjà parce que j'ai mon dessin quand même de Zébial.
Oh.
Qui est quand même génial.
En mais femme, en femme ou pas
en homme. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir par exemple ? Ben voilà, Cobra, d'époque de Récréa 2. Si Cobra était une femme, voilà.
Ah bah ouais.
Et il fait un travail de dingue, Zémial. On l'avait reçu ici pour parler de ce d'un autre projet, et on attend avec impatience la suite. Voilà. Ça s'appelle Shonen, pardon, de Zémial. C'est disponible sur son site internet, et on l'attend avec impatience. Merci, vous avez été formidables tous les deux.
Merci.
Ne changez rien, continuez à être comme ça, parce que seul on n'est rien.
Voilà.
Voilà, tout seul on n'est pas assez.
On n'est pas assez.
Oui. Moi je ne suis rien sans eux. Claude Lemel, grand auteur.
Grand auteur qui a beaucoup travaillé avec Joe Dassin.
Il y a une chanson de Claude Lemel dans l'album.
Et d'ailleurs j'en profite puisqu'on parle de Claude Lemel. Au mois d'avril, nous aurons le plaisir de recevoir Julien Dassin, qui sera avec nous pour parler de son papa et pour parler de ce grand spectacle qu'il fait au travers des États-Unis où il reprend les chansons de son papa. Donc on parlera de monsieur Claude Lemel. Ce sera l'occasion. Merci Marie d'avoir été là.
Merci
ma Chris d'être venue. Merci à Gérard Cuc qui était aussi en régie, directeur artistique, réalisateur, auteur qui était là. C'était un vrai plaisir. Merci à mon Nico qui était à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Vous vous souvenez des années 80, vous avez forcément connu ces chansons-là. Il sera avec nous. On reçoit monsieur Philippe Laville qui sera avec nous la semaine prochaine. On va se régaler avec ces tubes mythiques des années 80 et on va se faire plaisir. Ah ouais, il y a plein de surprises. Oh là là, mon Dieu. On va se régaler. Les portes du club se referment, les amis. Merci d'avoir été fidèle une fois de plus à cette émission. Et puis on se fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. À très vite. Bye bye.